Quartier Libre, l'émission d'actualité culturelle animée par Agathe Callot.
Bonjour à toutes et à tous. Ah, il est fatigué. C'était pas un beau fondu, ça, quand même. Bienvenue dans cette 18e et dernière émission de Quartier Libre au Festival Jazz in Marciac pour sa 46e édition. Et c'est l'heure du bilan. Pour nous, c'était un réel plaisir d'être ici pour ces 18 jours de musique. Un grand merci au Festival de Jazz in Marciac, au Collège de Marciac, aux équipes bénévoles, aux salariés, aux commerçants et à toutes nos belles rencontres. Nous avons réalisé 18 heures d'émission, des interviews en loge au Grand Chapiteau, 30 heures de micro-trottoir au moins, plus de 1000 témoignages à notre cabine juste derrière et des heures de reportage, et là on n'a pas le nom, mais plein aussi. Bref, une sacrée belle masse sonore qu'on espère que vous allez pouvoir suivre et resuivre un peu partout pendant vos vacances d'août. Pour cette dernière émission, on avait bien envie de vous proposer une émission spéciale bénévole de Jazz in Marciac, parce qu'on peut le dire, être plus de 800 bénévoles sur le festival, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. 800 bénévoles, ça veut aussi dire des pôles différents, donc certains gérer le contrôle des billets de concert, d'autres la cantine des artistes, d'autres la cantine des bénévoles, parce que oui, il y avait plusieurs cantines, d'autres la régie. Bref, il y avait énormément de choses et nous, on vous propose aujourd'hui une sélection de certains de ces pôles et de certaines personnes qui s'occupaient notamment de tout ça. Et on n'aura pas 800 bénévoles parce que non, c'est beaucoup trop petit le camion studio de radio pour accueillir autant de monde, mais ce sera une quinzaine quand même. Et alors aujourd'hui, pour démarrer cette émission, cette toute dernière émission, on est avec Jean et Juliette avec qui on a passé beaucoup de temps. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors vous étiez à Jazz au Cœur avec toute une nouvelle équipe. C'était comment ce Jazz au Cœur cette année? Quelle a été votre expérience?
C'était assez intensif, mais très intéressant. Et on travaille beaucoup. Pour nous, c'était une première expérience dans le journalisme, écrire des articles, faire des reportages, des interviews. Mais je pense qu'on a, ouais, on a appris beaucoup de choses.
Ouais. Et surtout que c'était une nouvelle équipe. Donc il a fallu s'installer, qu'on s'organise tous ensemble et ça faisait aussi partie du travail et c'était intéressant. Moi j'ai passé de très bons moments.
Vous n'avez pas beaucoup dormi par contre.
Exactement, on n'a pas beaucoup dormi.
Et Juliette, c'était toi qui faisais les dessins?
Oui, je faisais un petit dessin tous les jours, il y avait ma petite rubrique.
Et comment tu choisissais les artistes que tu dessinais?
Je prenais les artistes les plus connus. Voilà, je voulais qu'il y ait le plus de monde qui reconnaisse le portrait que je dessinais. Voilà, tout simplement. Aussi un peu celui qui m'inspirait le plus, mais bon. Il fallait que je cherche un petit peu le côté qui m'intéressait, qui m'intriguait dans cette personne.
Pour la dessiner encore mieux, quoi.
Voilà.
Et Jean, toi, tu as pris pleine possession des machines.
Exactement.
T'es devenu imprimeur.
Je suis technicien imprimant. C'est-à-dire que à n'importe quel problème, je peux.
À chaque bourrage papier, boum, Jean.
Et tu es très heureux.
Et oui, ça me rend heureux parce que j'aime les imprimantes, j'aime les bourrages papier. Voilà.
Vous avez imprimé à chaque fois 1000 exemplaires quand même. Et en gros, à quelle heure ça a commencé, à quelle heure ça a terminé pour un peu que aussi tout le monde se rende compte du travail que c'est d'imprimer quelque chose tous les jours quand même.
Alors globalement, on essaye de se réunir à
9h30,
10h le matin pour...
Midi
à la fin, oui, bon. Pour réceptionner les articles, corriger, mettre en page et imprimer.
Ouais, corriger, ça a pris beaucoup de temps.
Ouais. C'est ce qui prend le plus de temps. Si on est dans un bon jour, à 13h, on a terminé d'imprimer. C'est pas arrivé beaucoup, sinon...
Ça arrivait trois fois.
Ouais, ça arrivait
trois fois. Sinon, 17, c'est pas beaucoup.
14h, 15h, sinon c'est terminé.
Ouais. Et pliage et tout ça, quand même.
Ouais, pliage compris. Et distribution.
Et alors, donc vous, aujourd'hui, vous vous êtes dit, bon, quand même, Quartier Libre, Jazz au Cœur, il y a un petit lien. Et on vous a proposé assez vite de faire une chronique. Et aujourd'hui, pour la toute dernière, vous nous proposez une chronique. Moi, je ne sais même pas trop ce que c'est. Donc, ça va être la grande surprise. J'ai toute confiance en vous. Donc, je vous donne la parole.
dans un des plus grands festivals de jazz, nous allons parler un peu de musique classique. L'origine finalement du jazz, car comme disait le grand maître Ahmad Jamal, le jazz n'existe pas, c'est de la musique classique américaine.
Vous venez d'écouter un extrait de Antonin Dvorak, le quatrième mouvement de la Symphonie du Nouveau Monde, composée en 1893. On entend là la puissance d'un orchestre, son gros pupitre de cuivre et cette musique héroïque qui nous donne envie de conquérir le monde.
Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Dans cette chronique, nous allons ensemble explorer les différentes époques de la musique classique.
Nous sommes en 1703. Vivaldi vient de finir de composer cette sonate, appelée La Folia. On est dans les débuts de l'histoire de l'orchestre, à l'époque baroque. Voici trois astuces pour vous à la maison qui vont vous permettre de reconnaître cette époque.
En premier, le clavecin. Si vous en entendez, c'est du baroque, il n'y a pas plus simple. Son son est facilement reconnaissable, il est très pincé. Deuxièmement, l'orchestre est composé uniquement de cordes, en effectif réduit, car à l'époque, c'est une musique qui se jouait dans des petits salons, et il n'y avait donc pas besoin de beaucoup d'instruments. Il n'y avait pas la place en tout cas. Troisième astuce, eh bien faites un effort, c'est pas très compliqué.
Cette époque s'achève à la mort du célèbre compositeur Jean-Sébastien Bach en 1750 et laisse place au classique. La figure, l'emblème de l'époque classique. Cette époque est reconnaissable par sa droiture aristocratique. Il n'y a pas de retournement de situation, ni de drama. Tout est bien calé dans une forme prédéfinie.
L'orchestre s'agrandit et ajoute des instruments, comme la clarinette, le cor, la trompette. Cependant, cette musique atteint ses limites. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, et les compositeurs cherchent à exprimer des sentiments plus profonds, plus intimes.
Ah, ce violon larmoyant m'a mouillé l'orbite oculaire. Il faut dire que l'époque romantique, c'est des émotions qui débordent de la musique. La musique se libère et se complexifie. L'orchestre, quant à lui, s'élargit aussi. On multiplie les effectifs, notamment aux côtés des vents et des percussions.
Et ça ne s'arrête pas là. Les compositeurs continuent à expérimenter l'écriture orchestrale. Ils cherchent à se défaire des codes. Explosion, tumulte. Surprise! Ça fuse! C'est en 1910 que Stravinsky sort L'Oiseau de Feu, le ballet qui l'a rendu célèbre en agissant comme une bombe. Les gens sont choqués. Ils perdent leurs repères. C'est un grand tournant dans la musique. Et nous entrons dans l'époque moderne.
La musique se fait plus percussive. On cherche les limites de l'instrument. Elle déroule aussi un chemin narratif. On dépeint des tableaux, des sensations, des idées. Et voilà, la chronique touche à sa fin. On a pu survoler 4 grandes époques de l'histoire de la musique. On espère vous avoir donné des points de repère qui vous permettront de mieux vous retrouver dans cette épopée musicale.
À bientôt! J'avais perdu mon micro. merci beaucoup Juliette Jean, c'était une super chronique, on a été subjugués. On vous embauche l'année prochaine évidemment pour faire d'autres chroniques classiques avec des voix de comédiens, c'est certain. On continue cette émission, on a changé nos invités et là on a Samuel, Delphine et Eric. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Première fois dans un studio mobile comme ça ?
Ah oui, complètement.
Pour vous aussi ?
Oui,
exactement. Également, oui.
Pas trop stressé ?
Ça va.
Alors c'est des petites questions très simples. L'idée c'est de que vous nous racontiez quand est-ce que vous avez commencé le bénévolat à Jazz in Marciac, si c'est votre première année ou pas. Nous raconter un peu ce que vous avez fait dans vos missions respectives. Et puis définir un peu le festival ou nous dire si vous avez des anecdotes ou des choses à nous raconter. Donc on va commencer par toi Samuel, parce que moi j'ai voulu faire un petit parcours comme ça du public, du bénévole, de l'artiste. Et on va commencer par le bénévole, puisque toute personne qui vient être bénévole vient vous voir. Voilà, vous êtes là dès le début. Ça fait combien de temps que tu fais l'accueil des bénévoles de ton côté ?
Alors moi ça fait 2 ans que je suis à l'accueil bénévole. On est 3 administrateurs à s'occuper en tant que responsable de ce poste. Mais ça fait une 15aine d'années que je suis bénévole à Jazz in Marciac.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller du côté accueil des bénévoles ?
Le changement et la possibilité, suite à un déménagement dans le Gers, la possibilité de pouvoir être bénévole tout au long de l'année et de suivre l'actualité du festival.
Parce que l'accueil bénévole se fait évidemment au moment du festival, mais j'imagine qu'en amont, il y a déjà un gros boulot.
Il y a un gros travail en amont qui commence dès janvier avec l'envoi des candidatures, le contact avec les responsables d'équipe. Et tout ça se fait sur à peu près 6 mois avant le début du festival.
Et alors, combien de bénévoles au total on a exactement ?
Alors exactement, je ne pourrais pas donner un chiffre exact, mais on a à peu près 700 bénévoles par jour et entre 850 et 900 bénévoles sur la totalité du festival.
Quand même. Alors, je crois qu'il faut que tu parles un tout petit peu plus proche.
Oui.
est-ce que tu peux nous raconter quelles étaient un peu tes missions là, pendant le festival ? ce que tu as dû faire au quotidien.
Alors au quotidien, nous, on est responsable de l'édition des badges, on est en relation avec les responsables d'équipe et on gère tous les problèmes des bénévoles relatifs à leur travail de bénévolat. Donc pour les changements d'affectation éventuellement, les problèmes qui peuvent survenir vis-à-vis de leurs responsables d'équipe ou leurs problèmes au quotidien dans le festival. On veille à ce que leur mission se passe le mieux possible.
Et alors, est-ce qu'il y a des anecdotes ? J'imagine qu'il y en a un petit peu. Est-ce que tu en as une ou deux qui t'a vraiment marqué, qui a marqué cette 46e édition ?
J'en ai quelques-unes, mais je me garderai bien de les mentionner ici.
Il faudra aller le voir pour avoir plus d'informations. Alors. Si tu devais définir ton festival, toi, cette 46e édition, en un mot, ce serait lequel et pourquoi ce mot-là qui te vient en premier ?
J'en ai aucune idée là, tu me prends deux cours, je ne saurais pas quoi te répondre. J'ai pas...
Une émotion peut-être
Tranquillité.
Tranquillité. Tranquillité. Ok, donc ça s'est bien passé alors.
Ça s'est bien passé.
Ça s'est passé tranquille.
Oui.
Super. Merci beaucoup Samuel.
Je t'en prie, merci.
On va continuer, on va aller du côté, parce que là c'est le chemin des artistes. Les artistes avant qu'ils arrivent, il se passe beaucoup de choses. Alors ils arrivent évidemment, donc là il y a des chauffeurs, malheureusement ils ne sont pas là pour nous en parler, mais c'est pas grave, ils arriveront peut-être en cours de route. Et à un moment ils mangent. Donc catering backstage. Delphine, toi, tu t'occupais notamment de cette partie-là. Depuis combien de temps t'es bénévole d'abord ?
Alors, je suis bénévole depuis maintenant 3 ans. J'ai commencé au backstage accueil avec Maryse et j'ai poursuivi avec Jean-François Robinet, dit Jeff, en cuisine, voilà, cuisine des artistes.
Et alors, c'est quoi exactement quand on est à la cantine des artistes ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, on travaille avec d'excellents produits choisis par Jeff, des produits du coin, hein, des produits locaux. Et puis, Jeff conçoit les menus à partir des demandes des artistes. Il y a beaucoup de personnes végétariennes, ainsi de suite. Et donc, nous, dès le matin, il y a un roulement. Il y a une équipe du matin, une équipe d'après-midi, une équipe du soir. Et nous accueillons les artistes soit avec un petit déjeuner s'ils arrivent tôt. Et puis, on enchaîne toute la préparation pour le midi, pour le soir, à partir des horaires qu'on nous donne et du nombre de personnes qui arrivent, puisque les artistes peuvent arriver avec leur famille ou des amis. Parfois, ils sont très nombreux. Voilà, donc dès le matin, on commence à trancher les tomates locales, magnifiques tomates jaunes, vertes, rouges, à faire de magnifiques plateaux, de crudités et ainsi de suite.
Et alors, est-ce que tu as des anecdotes ? J'imagine qu'au catering artiste, il doit quand même se passer pas mal de choses. Est-ce que tu as une anecdote de quelqu'un qui a voulu manger un truc hyper spécifique ou quelque chose d'un peu marrant que tu auras envie de nous livrer ?
Alors, ils sont très gourmands, généralement. On peut prendre l'exemple de Caravan Palace hier et aussi Delgré, qui ont particulièrement aimé les glaces de Jeff. Donc, glace à la framboise, à l'abricot, à la verveine, à la menthe. Ce sont de magnifiques couleurs puisque ce sont des produits frais. Et ils sont revenus chacun leur tour parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui ramenait une boule de glace, l'autre en voulait une. Moi, j'ai mis à peu près 3h30 pour faire des petits hamburgers maison avec des pains à navette au sésame. Et puis quand je leur ai présenté, le plateau a duré 5 secondes. Donc, voilà,
3h pour 5 secondes.
Ça fait très plaisir, mais voilà. C'est une expérience de vie incroyable. Cette cuisine est pleine de vie. Autant que les produits, pleines de couleurs, avec des gens différents, de parcours différents. Jeff est quelqu'un qui impulse la bonne humeur, qui sait demander, qui sait obtenir ce qu'il veut. Enfin, c'est vraiment le genre de chef avec qui on souhaiterait travailler toute l'année. Voilà. Et la cuisine, un peu, c'est comme la musique, quoi. Elle donne une âme au cœur et des ailes à la pensée. C'est pas moi, c'est Platon, mais je pense qu'on peut faire la comparaison avec cette ambiance musicale. Elle est très, très colorée, très diversifiée. Elle permet aussi d'apprécier les gens. C'est une aventure humaine incroyable. Autant avec les artistes, bon, certains ont des caprices, on leur cède. et une aventure humaine parce que la rencontre avec plein de gens dans cette cuisine, voilà.
Génial. Et alors, est-ce que si tu avais un mot pour toi définir ton expérience de cette 46e édition, quel serait le premier mot qui te viendrait ?
La vie.
La vie.
Voilà.
C'est beau. Merci beaucoup, Delphine.
Merci à toi.
Et alors, ce qui est très important aussi, donc évidemment manger c'est hyper important, mais ce qui est hyper important c'est de pouvoir jouer au bon moment, au bon endroit. Et donc là, la régie est juste indispensable. Est-ce que Eric, tu peux nous parler de toi, déjà depuis combien de temps tu es bénévole à Jazz in Marseille pour commencer ?
Alors je suis bénévole depuis 6 ans. Au début j'étais au contrôle, donc l'accueil et le contrôle des billets et le placement, enfin pas le placement mais la surveillance du chapiteau. Et en fait, j'ai eu envie d'avoir une expérience un peu plus, comment dire, où il y aurait plus un travail d'équipe, parce que quand on est au contrôle, voilà, on est assis dans les allées. Et j'avais vraiment envie de quelque chose à partager avec mes compères. Et du coup, ça fait 2 ans que je suis à la régie Chapiteau, et là, c'est vraiment extra.
Et alors, quelles sont tes missions exactement ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ?
Alors, la régie Chapiteau, en fait, c'est le but principal, c'est accueillir les festivaliers dans des conditions de sécurité et de confort. Ça, c'est la base. Ce qui veut dire que tous les jours, on va vérifier l'intégralité des chaises du chapiteau, les réaligner s'il y a besoin, comme par exemple hier soir, là, ça a bougé un peu. Voilà, vérifier qu'elles ne soient pas dévissées, qu'elles ne soient pas cassées, sinon on les remplace. On vérifie aussi l'état des parquets, puisque les parquets, c'est comme un peu un damier qui a été assemblé. Donc, des fois, ça bouge, il y a des cales qui bougent, il y a des vis qui ressortent. Donc, au quotidien, ça a l'air de rien, mais on vérifie la surface totale du chapiteau, l'intégralité des sièges. Et voilà, on pourvoit ce qui est cassé ou à réparer. En même temps, on vérifie aussi l'état de la clôture, je ne sais pas comment on peut appeler ça, enfin, du périmètre autour du chapiteau, pas simplement pour déjouer les fraudeurs, mais aussi parce que la sécurité, c'est empêcher que des gens malvenus rentrent. Donc on vérifie les grilles, voilà, tout ça. Et puis après, il y a plein de petites autres missions. Ben, par exemple, caler les roues du camion
de quartier libre.
Voilà. Par exemple, ou installer une scène, ou installer des grilles. Enfin voilà, on est un peu les hommes à tout faire du festival, on ne se cantonne pas au chapiteau, même si c'est notre vocation première.
J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire autour qui s'ajoutent de jour en jour avec des demandes supplémentaires.
Ah ouais, le début, c'est assez tendu, là, les premiers jours, parce que forcément, comme tous les festivals, c'est prêt juste à temps. Donc la première semaine, c'est quasiment 10-12 heures de taf. Hein, on ne chôme pas et on est une équipe de 10. Quoi.
Et ça, voilà. Se calme un petit peu après ?
Ça se calme au milieu. Et puis hier, déjà, on a commencé à enlever des chaises pour que ça puisse danser. Et par exemple, ce soir, à la fin du concert, on va démonter toutes les chaises, toutes les ranger pour les sortir du chapiteau.
Combien il y a de chaises au total, tu sais ?
5008, je crois, plus les gradins. Ouais.
Et vous êtes 10 ?
Ouais, mais ce soir, on aura de l'aide.
Ah oui, quand même.
Parce que là, du coup, il faut tout mettre sur les racks qui sont prévus. Ça sera évacué directement. Et demain matin, à 8h, il y a les premières semis qui arrivent pour charger et les premières équipes qui viennent démonter les planchers. Donc, ça ne va pas rigoler.
Et alors, pour toi, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir, parce que les autres ont déjà dit leur mot, quel serait ton mot pour définir la 46e édition de ton festival Jazz in Marciac ?
Pour moi, c'est toujours un plaisir. Voilà, une ambiance festive de camaraderie, j'ai envie de dire, avec les autres bénévoles, parce qu'il y a un lien très fort avec les bénévoles, même s'ils sont très nombreux, on n'a pas le temps forcément de les rencontrer tous. Mais je ne sais pas, c'est une grande famille, ça paraît un peu bêta de dire ça. Mais
non, je crois qu'on est tous d'accord.
C'est ça, c'est, voilà, et il y a un respect, il y a, ouais, franchement, une belle amitié. Ouais.
Je crois que Delphine, tu voulais peut-être dire un petit truc en plus.
Je voulais remercier en tout cas d'avoir cette opportunité de pouvoir venir vivre cette expérience aussi parmi vous et de pouvoir s'exprimer librement sur ce que l'on vit et ce que l'on partage, notamment votre idée et cette création de camions en pleine rue qui prête des réflexions et des consciences autour de la musique, du partage, de la bienveillance. C'est très bien. Bravo.
Merci.
Bravo
à vous. Merci beaucoup. Et on avait très envie de vous donner la parole parce qu'on pense que sans bénévoles, il n'y a pas de festival. Et donc, c'est vraiment important de mettre un peu la lumière sur ceux qui font vivre le festival. Merci.
Et moi, je voudrais faire un petit coucou à mon équipe, à Marie-Lou, à Pascal, à Joël, à Ingrid, à Babé, Martine, à Florence. Voilà, parce qu'elles sont toutes pleines de vie et ce sont des petites étoiles parmi plein d'autres. Et voilà. Et je les adore.
Trop mignon. Merci beaucoup à tous les trois.
Ben, merci à toi.
Et on va faire un petit changement de plateau, donc on va vous mettre un petit morceau et on se dit à tout de suite. Retour au plateau, on est de plus en plus nombreux dans ce camion studio de radio, donc nous ont rejoint Michel, bonjour Michel.
Bonjour.
On a Teva avec nous.
Bonjour.
Bonjour Teva, on a Amy et Louise. Oh non, tu pleures déjà, arrête, non. Je vais pleurer. On a Amy qui est avec nous, avec Louise, elles sont un peu loin mais elles sont là. Bonjour à toutes les deux. Et on a Guy qui est avec nous.
Bonjour.
Alors, on va continuer ce petit parcours. Et là, cette fois-ci, c'est le public parce que, évidemment, les bénévoles, c'est aussi, c'est vraiment sans eux, il n'y aurait pas de festival, mais sans le public non plus. Donc, je crois qu'il est aussi important de montrer tout ce que vous faites aussi pour le public, pour les accueillir en bonne et due forme. Donc, on va commencer par l'accessibilité, puisque Jazz in Marsac est un festival accessible à toutes et tous. Est-ce que tu peux nous parler de Access in Marsac et déjà, d'abord, nous dire depuis combien de temps tu es bénévole?
Alors, moi, ça fait 35 ans que je vis à Marsac. Et ça fait depuis 2018 que je suis bénévole à Access. C'est le nouveau nom maintenant. Auparavant, ça s'appelait Accueil PMR. Et on a souhaité changer cette appellation parce qu'il n'y a pas que les personnes à mobilité réduite. Il y a d'autres formes de handicap. Donc voilà, nous avons souhaité cette année élargir notre public et aussi également améliorer, et c'est ce qu'on essaie de faire chaque année, améliorer les services que l'on rend. Voilà.
Et alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous mettez en place?
Alors, nous avons un parking qui est situé tout près du chapiteau et qui est à l'opposé de l'entrée principale. Elle est près du cimetière. Voilà. Mais voilà, donc c'est, nous avons un parking d'une cinquantaine de places à peu près et qui est adapté depuis deux ans, parce que nous n'étions pas là auparavant. Nous étions près de l'entrée principale, mais maintenant nous sommes là. Et nous avons fait en sorte que ce parking soit facilement roulable pour les personnes qui sont en fauteuil, notamment, et qui soit proche du chapiteau. Voilà. Et nous avons un stand que nous avons beaucoup amélioré cette année, avec du mobilier très cosy. Nous avons un Algeco avec la climatisation. Donc, si quelqu'un ne se sent pas très bien, il peut venir se reposer. Il y a des fauteuils. Et puis, il y a toute l'équipe qui est aux petits soins pour ce public. Mmh.
Voilà. Et alors, toi, quelles sont tes missions quotidiennes? Qu'est-ce que tu fais, toi, alors, Michel?
Alors, nous sommes 12 personnes, dont le responsable, Olivier Roger, qui est un Marciacais, lui-même handicapé dans un fauteuil. Donc, il sait de quoi il parle, forcément. Et nos missions, bon, c'est d'accueillir les personnes. Nous sommes ouverts de 11h jusqu'à la fin du concert, et même quelquefois un petit peu après. Et notre rôle, c'est de protéger le parking pour que personne d'autre vienne s'égarer, d'accueillir les personnes, de discuter avec eux, parce qu'ils aiment beaucoup ça. Et puis d'être aux petits soins, les accompagner au chapiteau s'ils le souhaitent, et d'être aux petits soins, de trouver des solutions quand ils ont un problème. Voilà, c'est ça notre rôle.
Super. Et alors, si tu devais, toi, donner un mot pour définir ta 46e édition de ce festival, qu'est-ce que ce serait et pourquoi ?
Oui. Ben, pour moi, c'est l'empathie, la joie de vivre et permettre aux personnes qui ont le courage, malgré leur handicap, de venir à Jazz in Marciac et qu'elles repartent avec un grand sourire.
Complètement. Merci beaucoup, Michel. Merci, merci. Alors, Teva, évidemment, donc toi, tu étais plutôt du côté du coin des gamins. Enfin, toi, tu n'étais pas les gamins avec les... Tu vois, on a compris. Mais ce qui est très important quand on vient voir un concert, c'est de peut-être pouvoir laisser ses enfants ou à un moment dans la journée pour pouvoir se balader, laisser ses enfants quelque part en sécurité. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est le coin des gamins?
Ouais, c'est ça. Alors, pour nous, c'est pas, on ne garde pas les enfants pendant les concerts puisqu'on est ouvert de 15h à 19h. Mais on permet...
À l'heure de l'apéro, ça va.
Ça va. On permet aux festivaliers et aux commerçants de Marciac de laisser leurs enfants dans un lieu où ils peuvent s'amuser avec d'autres enfants pendant qu'eux profitent du festival, du bis, tout ça. Parce qu'on sait parfois que les enfants n'ont pas forcément envie de rester assis pendant 2 heures au bis, écouter des concerts. Et donc, on permet aux parents de laisser leurs enfants tout en proposant des activités donc, aux enfants. On a des intervenants qui viennent tous les jours, différentes choses. On a des voyages musicaux en Amérique où on emmène des instruments et les enfants peuvent jouer avec. On part faire des balades de sensibilisation à la pollution et ramassage de déchets. Et on fait plein de choses, des choses artistiques aussi. Et du coup, nous, en tant que bénévoles, on vient combler les moments où ce n'est pas les intervenants qui animent les enfants. Et on accompagne, bien sûr... Dans le reste de l'après-midi.
Faut de l'imagination, en fait.
Faut de l'imagination. Et aussi, alors, cette année, c'était surtout, on les accompagnait dans ce qu'ils avaient envie de faire. S'ils avaient envie de faire la peinture, on les accompagnait. S'ils avaient envie de faire du sport, voilà. Et on a beaucoup discuté cette année avec l'équipe. Et on s'est dit, du coup, on voulait essayer l'année prochaine de mettre des après-midi sans intervenants. Où là, c'est nous, les animateurs, qui allons proposer des grandes activités, proposer des choses comme ça, pour peut-être qu'on se sente plus investi aussi dans le projet. Parce que parfois, c'est vrai que ça faisait... on avait l'impression d'être un peu à côté, quoi. Nous, on accueillait juste au début, il y avait l'intervenant pendant 2 heures, et après, on les aidait, on aidait les parents à récupérer leurs enfants, quoi. Donc, je pense que c'est important pour nous de se sentir plus investis encore dans le projet et de proposer nous-mêmes des après-midi entières. On a fait ça un peu, on s'est baladé dans Marciac, on a pris une glace et ça, et c'est des choses qui sont géniales. Voilà, moi, je suis très content de faire ça et de pouvoir aider aussi ce festival parce que j'étais au collège ici, donc moi c'est la première année que je suis bénévole. J'étais au collège ici et l'année dernière j'ai eu 18 ans pendant le festival, donc j'ai pas pu être bénévole. Et là ça y est, je m'engage enfin. Et je suis très content, ouais, de pouvoir aider le festival et de pouvoir vivre aussi ce festival d'une autre manière. Parce que le vivre en tant que bénévole, c'est une toute autre expérience qu'en tant que festivalier ou en tant que musicien dans les rues. C'est ouais, tout autre chose et on rencontre une très très grande famille. Des gens très sympas, on sait tous qu'on peut s'entraider, et c'est génial, je trouve.
Et alors toi, si tu devais donner un mot pour définir ta 46e édition de Jazz in Marciac, ce serait quoi et pourquoi?
Alors là, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est vraiment de la bonne humeur et j'allais dire pétillant, ça se dit pas, mais...
Pétillant. Pétillant, t'as le droit de dire le mot pétillant.
Parce que les enfants nous ont apporté énormément de choses et beaucoup d'énergie et de lumière dans ce festival, même si on en a déjà partout. Mais,
les enfants, ça apporte quelque chose.
Ouais, les enfants, c'est vraiment génial. Et aussi, un truc qui est génial, c'est de les recroiser après dans les rues du festival et de les croiser le soir au concert au chapiteau, de les croiser au gigot, parfois il y en a qui viennent. Et c'est génial, je trouve, on danse ensemble et tout, c'est encore autre chose.
Génial, merci beaucoup Teva. Et alors, retour l'année prochaine alors?
Bah, bien sûr. Bien sûr.
En fait, on vient une année et après, on ne repart plus.
Ouais, on ne s'arrête pas.
Merci beaucoup. Et alors, Guy, de ton côté, tu étais au contrôle. Alors, j'imagine que tu vois passer beaucoup, beaucoup de gens. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu es bénévole à Jazz in Marciac ?
Alors, moi, je suis arrivé en 2019 ici comme festivalier. Donc, comme festivalier, j'étais avec un ami bénévole qui habitait à côté de chez moi à Paris et qui m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça ? Et après, il y a eu le Covid, donc pas de festival. Et en 2021, je suis revenu donc depuis 4 ans. Voilà. Donc, et c'est un plaisir extraordinaire.
Toujours au contrôle ou tu as fait différentes choses ? Toujours au contrôle.
Toujours au contrôle. Alors, bon, c'est vrai qu'on voit la sociologie des bénévoles. Aux placeurs, c'est plutôt des 15, 25, 30 ans. Là, on a Teva qui est au coin des gamins, donc c'est pas tout à fait... Alors après, bon, j'ai été interpellé par le fait que le parking du cimetière, c'est pour les personnes à mobilité réduite. Ça m'inquiète un peu, mais enfin, c'est ce que j'ai entendu. Mais voilà, donc je crois qu'il y a une très grande diversité des personnes ici, de toute région. Effectivement, il y a aussi beaucoup de Marciacais, mais moi, je viens de Paris, voilà, c'est tout à fait différent. Orléans, il y a des Rennais, etc. Alors, le contrôle, peut-être, si
tu me demandes... Oui, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi l'émission ?
Alors, le contrôle, c'est très particulier parce qu'on est d'abord très nombreux. On est 80-90, je pense que c'est la plus grosse équipe de bénévoles sur Marciac. Et il y a beaucoup de postes différents. Alors, on peut être à l'entrée, bien sûr, à la zapette, là, à l'entrée, à la sortie. Alors, les festivaliers ne comprennent pas toujours pourquoi il faut zapper la sortie, zapper l'entrée, etc. Bon, on va pas leur expliquer parce que c'est un peu compliqué. On peut être là, on peut être au gradin aussi. Alors, il y a l'entrée des gradins, la sortie des gradins, c'est encore un peu particulier. Ça a posé des problèmes l'an dernier parce que les gens qui étaient dans les gradins avaient l'impression d'être un peu en prison. Donc, ça leur plaisait pas du tout. Et puis, à l'intérieur, on est plutôt là pour réguler, pour éviter que les gens montent sur les chaises, prennent des films entiers parce que, bon, il est dit qu'il ne faut pas filmer, mais on peut difficilement empêcher les gens de prendre leur portable. Éviter les passages dans les allées également pour éviter que... Alors bon, on ne peut pas empêcher les gens de sortir, etc. Mais on leur demande de ne pas rentrer.
Et de ne pas, pas avancer.
De ne pas se balader, voilà. Et puis effectivement, quand il y a des soirées comme hier qui étaient un peu fiesta. Donc là, on évite, quand on est devant notamment, que la scène soit envahie et que, voilà, donc, d'autant plus qu'il peut y avoir des officiels sur le côté. Il y a le maire, bien sûr, mais il peut y avoir d'autres personnalités politiques ou des invités de marque, d'une certaine manière. Il faut être un peu prudent avec ça.
Et alors, vous êtes à chaque fois, toutes les soirées, 80 ?
Alors, on n'est pas toujours 80. Il y en a 60, 65 qui sont toujours là. Donc, il y en a une douzaine à peu près qui sont à l'entrée pour les billets, etc. Puis à l'intérieur, on est une cinquantaine, oui. Donc, on est dans les allées, on est devant, on est derrière, on est au gradin et on surveille un peu tout ça.
Et alors, au contrôle, il n'y a pas des anecdotes un peu marrantes ?
Moi, il y a des anecdotes marrantes. Il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'on les empêche de passer. Bon, il y en a qui passent, il y en a qui sont bourrés, donc on essaie de les calmer un petit peu. Quand ça bouge beaucoup, si le musicien demande à ce que tout le monde se lève, bien entendu, on va les laisser se lever. Hein, mais il ne faut peut-être pas qu'ils montent sur les chaises. Donc voilà. Après, vous allez me demander le mot de la fin, donc je vais te le dire.
Ça y est. C'est bon. Ouais. Hop, je lâche mon micro, je ne sers plus à rien.
le mot de la fin. Je vais quand même raconter quelque chose qui est merveilleux parce que depuis que je suis là, je connais bien Michel Cardoz. Hein. Et puis j'ai tendance, maintenant je le tutoie, je lui dis Michel viens t'asseoir, etc. Et surtout chaque fois que je le vois maintenant, je lui dis rebonsoir, viens t'installer là, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc c'est le plaisir de retrouver ça chaque année, c'est le plaisir de retrouver Michel Cardoz.
Ah, on aime bien, super mot de la fin. Alors non, si tu devais dire un seul mot, trouver un seul mot pour définir toi ton festival de cette année, c'est quoi
mon
le mot ?
Mon festival de cette année. Alors, c'est un mot, je ne pourrais pas dire un mot, parce qu'un mot c'est un peu délicat, mais je trouve qu'il y a peut-être cette année, ça a manqué de très grandes vedettes quelque part. Et on a constaté une absence, mais une déshérence un petit peu du nombre de festivaliers.
Une baisse de fréquentation.
Ça, je pense que les gens ici se plaignent aussi au niveau des commerces. Il y a eu moins de monde. Alors, un mot, je ne sais pas. Je crois que c'est il faut venir parce que c'est la joie, quoi. C'est le plaisir. On se promène partout et puis on profite. Donc, la joie.
La joie. Venez, c'est la joie. Et alors, peut-être juste anecdote, parce que j'imagine qu'avec les gamins, il y a quand même des anecdotes. Est-ce que tu as une anecdote, Théva ?
Franchement, cette année, on a eu des gamins super, quoi.
Quel
sage !
Oh, mince !
Là, il n'y en a eu aucun qui a fait des trop grosses bêtises et tout. Parfois, quand on sort là, dans Marciac qui commence à courir partout et tout, on est obligé de les recadrer un peu et parfois on osse un peu le ton. Et du coup, voir les gens autour qui nous regardent comme ça, on est genre trois avec une quinzaine de gamins autour et dire « Ah ouais !»
Dis donc, vous avez beaucoup d'enfants.
Mais non, franchement, je suis très très content parce qu'on a eu une super équipe et on a eu des super gamins avec nous. Donc ça s'est vraiment très très bien passé.
Super. Eh bien, merci à tous les trois. Maintenant, je vais donner la parole à Amy et Louise qui ont fait donc le Radio Summer Camp. Alors, c'est même pas moi qui leur ai demandé de venir, je vous assure. C'est elles qui avaient envie de venir. Donc, peut-être vous pouvez raconter votre expérience pour ceux qui n'auraient pas compris ce qu'on faisait, peut-être raconter ce qu'on a fait.
Déjà, moi, je ne savais même pas qu'on passait aujourd'hui, donc je vais laisser Amy commencer.
Pour expliquer un peu ce qu'on a fait durant tout le festival, on a été formés par... les meilleurs, Agathe et Antoine. on a appris à faire du micro-trottoir, à utiliser un Zoom pour aller interviewer les gens dans la rue, recueillir des témoignages, tout ça. Donc après, pour faire des reportages, on a appris à faire du montage et à faire un reportage pour passer à la radio en direct après.
Donc ça, c'est la partie un peu officielle. Mais je pense que on a surtout appris à aller vers les gens et à faire des rencontres aussi et à cohabiter, on va dire. Parce que c'est quand même 3 semaines assez intenses. Des fois, ça passe super lentement, le temps que tout le monde trouve un peu son rythme. Et puis là, ça y est, c'est déjà un peu la fin. Donc, quand même pas mal, beaucoup de joie, effectivement. Beaucoup de bienveillance aussi, beaucoup d'amour, beaucoup de rire et... Voilà, donc merci à Radio Summer Camp quand même.
Et vous, peut-être, chacune, vous pourriez dire un mot qui définit votre festival, un seul mot ?
Moi, je dirais le mot rencontre, parce qu'on vous a rencontré cette année et franchement, si vous revenez l'année prochaine, moi, je veux le refaire parce que c'était génial et grâce à vous, j'ai rencontré plein de monde, je suis beaucoup plus à l'aise à aller vers les gens et tout ça, donc ouais, rencontre.
Moi, je dirais le mot charisme pour bien commencer, parce que c'est une valeur que nous partageons tous, surtout grâce à Antoine. Mais au-delà de ça, oui, c'est sûr, les rencontres, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parce que ça nous apprend quand même beaucoup plus à aller vers les gens. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus trop de machine arrière. Ça y est, on est à l'aise avec les gens, donc c'est bien. Franchement, donc soit charisme, soit rencontre.
C'est une compétence qu'on peut pas enlever une fois qu'on a été vers les gens.
Puis le charisme non plus, ça ne repart pas.
C'est vrai.
Rencontre charismatique.
Bah voilà.
Ça c'est bien. Merci Antoine.
Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, un petit dernier mot?
Merci. Vive Jim.
Vive Jim, exactement. Ouais. Allez, on le dit
Radio
tous ensemble. Est-ce qu'on le dit tous ensemble? 1, 2, 3.
Vive Jim.
Et Radio Summer Camp quand même.
Et Radio Summer Camp. Et Quartier Libre, allez, t'as connu. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de cette émission. On a fait donc 18 émissions au total. Ça y est, Quartier Libre va repartir vers d'autres horizons, peut-être vers des vacances, on l'avoue. Merci beaucoup, si ça vous a plu, n'hésitez pas, on continue à faire des podcasts toute l'année, partout en France, mais aussi des émissions à Toulouse et à Poitiers. Alors écoutez-nous, si vous vous sentez nostalgique dans quelques jours, Quartier Libre et ses émissions seront toujours là pour vous. Vous pourrez écouter les émissions sans modération en podcast sur Spotify et sur quartier-libre.eu. Merci beaucoup au festival pour cette petite bulle de 18 jours. On a vraiment adoré être là. C'était génial. On a vu tous ces sourires, on a vu tous ces rires et on espère à l'année prochaine. Et un dernier petit mot, un grand merci à Antoine, mon acolyte, qui a fait toutes les émissions, qui a été technicien, mais aussi tout. Ça a été vraiment mon bras droit. C'était génial. Merci beaucoup Antoine et à l'année prochaine.
Allez, ciao, bye bye.